Studio Tamani, voici les informations en français.
Auditeurs de Studio Tamani, bonsoir. Il est 18h à Dembassala, c'est dans le cercle de Nara et c'est l'heure de votre journal. Voici le sommaire. La fête de Pâques a été célébrée ce dimanche 20 avril 2025 par la communauté chrétienne du Mali. Cette fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ a aussi été marquée, a été un moment de prière pour les fidèles chrétiens pour le retour de la paix, la stabilité et l'entente dans le pays. À Kenyeba, plusieurs activités génératrices de revenus se développent autour des sites miniers. Ces activités renforcent la cohésion sociale, l'autonomisation des communautés pour atténuer la pauvreté. Enfants en danger dans la rue, notre chronique du jour porte sur ces enfants au carrefour ou le long des grandes artères, tendant des bouts de papier aux usagers comme argent. Le développement de ce titre, c'est avec Idrissa Sakho. Sidou Daou est à la technique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais dans le titre, la communauté chrétienne du Mali a célébré ce dimanche 20 avril 2025 la fête de Pâques, une célébration marquant la résurrection de Jésus-Christ. Dans les différents lieux de culte, les fidèles chrétiens étaient au rendez-vous et ils ont prié pour le retour de la paix, la stabilité et l'entente dans le pays. Cette célébration de Pâques intervient au moment où l'annonce du décès du pape François a été faite par le Vatican ce lundi 21 avril 2025. Issa Oumar Togola, reportage.
C'est la plus grande fête chrétienne de l'année. À la cathédrale de Bamako, les fidèles chrétiens ont fêté dans la joie et ils ont formulé les vœux pour la communauté et le pays.
C'est la joie, hein. Christ est ressuscité. Donc comment ne pas être content? Que la paix règne dans les cœurs, dans les familles.
C'est la célébration en fait de notre identité, de notre foi.
J'espère que le pays va avoir une sécurité, une paix qui puisse être donnée de la grâce divine.
La fête de Pâques symbolise la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort ou encore celle de la lumière sur les ténèbres. Dans son discours adressé à la communauté chrétienne, l'abbé Noël Samake a saisi l'occasion pour souligner les grands défis que connaît la sous-région.
Nous vivons dans un monde de discrimination, de violence, de terrorisme, de suicide, d'abus d'alcool, de mauvaises habitudes alimentaires, de manque de respect pour la nature. Mais nous voulons lutter contre ces phénomènes.
Notons que la célébration de cette Pâques intervient au moment où le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril la mort du pape François à l'âge de 88 ans. Il avait été élu en 2013 après la renonciation de Benoît XVI.
À l'intérieur du pays, malgré le contexte sécuritaire précaire, les fidèles chrétiens ne sont pas restés en marge de cette célébration. De Kita à Sikasso, en passant par Yoroso, Bankas et Gao, tous ont magnifié cette fête de Pâques. Mais à Diré, dans la région de Tombouctou, aucune veillée pascale n'a été organisée. Les détails avec Alima Yatara.
À Bankas, les fidèles chrétiens, parents et enfants ont célébré la résurrection du Christ dans un sentiment de joie dans les églises. Cette célébration a été marquée par une messe, des salutations et des partages de repas. Les petits cadeaux, les jouets, les bonbons, les chants et les danses ont rendu la Pâque joyeuse pour les enfants. C'était la même atmosphère de joie à Sikasso, Kita et Yoroso, où la communauté chrétienne, protestante et catholique a commencé samedi soir avec la veillée pascale dans les différentes églises de la ville. Les familles chrétiennes n'ont pas fêté seules. Des voisins d'autres confessions religieuses étaient présents. Au nord du pays, la fête de Pâques s'est déroulée dans un calme à Gao. Les forces de sécurité ont été déployées autour des deux églises protestantes et catholiques. Les fidèles ont pu assister aux offices sans incident. Cependant, à Diré, contrairement aux années précédentes, aucune veillée pascale n'a été organisée à cause de la situation sécuritaire. Les fidèles ont assisté à la messe matinale avant de partager un moment festif.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le syndicat national des banques et établissements financiers SINABEF a suspendu son mot d'ordre de grève et entamé jeudi 17 avril. Selon son secrétaire administratif, Ogo Tebelum Gindo, cette décision est intervenue suite à l'invitation du gouvernement aux négociations. Il a également précisé que parmi les 15 points de revendication, ce sont deux points qui sont en discussion avec le SINABEF et le SINABEF souhaite donc obtenir satisfaction. Il est joint par Koumafin Keita.
Dans la soirée du vendredi, le bureau exécutif du SINABEF a tenu une rencontre avec le Premier ministre sur les doléances inscrites sur notre préavis. Le bureau exécutif a évalué l'ensemble des points inscrits sur le préavis et nous avons acté deux points de désaccord que le Premier ministre lui-même s'est engagé pour un bon dénouement. À la suite de ça, le bureau exécutif a jugé nécessaire de suspendre le mot d'ordre en attendant les missions de bon office. Nous comptons clairement sur le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble de toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées au cours de ces négociations.
Sur un tout autre sujet, Kenyeba est devenue une localité dynamique et commerciale grâce à l'exploitation de l'or. Sur les sites de l'exploitation de l'or, beaucoup d'activités se sont créées. Il s'agit notamment de la vente et la location du matériel de travail, une opportunité bénéfique à beaucoup de personnes sur les sites. Notre envoyé spécial à Kenyeba, Mariam Maïga, nous donne plus de détails.
Nous sommes à 5 km de Kenyeba sur un site d'orpaillage non loin de l'aéroport. Des commerces improvisés sont visibles partout. Parmi eux, des moulins à sable, non pour les céréales, mais pour broyer le sable aurifère. Awa Diallo en exploite un. Elle concasse le sable contre rémunération.
Après séchage, on concasse les pierres. La poudre est passée dans des calebasses pour séparer les pépites d'or du sable. Ce travail m'a permis de construire une maison et j'ai pu scolariser mes enfants. Pour l'aîné de mes enfants, les frais académiques se sont élevés à plus de 3 millions de francs CFA.
Après le concassage vient l'étape de séparation du sable de l'or. C'est là qu'intervient la calebasse. Cet outil de travail indispensable sur les sites d'orpaillage alimente un marché prospère, comme le témoigne Tigidadi.
Je vais jusqu'à Dandougou. C'est là-bas que je paye mes calebasses. J'achète l'unité à 400 ou 500 et je les revends aux orpailleurs à raison de 500 et 750 l'unité. Dieu merci, ça va. Je fais des bénéfices qui me permettent de survivre.
Entre autres activités qui rapportent sur les sites d'orpaillage, on trouve la réparation des motos, premier signe de réussite pour les orpailleurs selon un réparateur. De Kenyeba, Mariam Maïga pour Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Et maintenant, notre rubrique Vérifions. Un poste sur X indique que la sécurité ne s'arrête qu'à 5 km de Bamako. Qu'en est-il sur le terrain? La réponse avec Dramane Maïga.
Un poste X qui fait des milliers de vues prétend que la sécurité du Mali s'arrête à 5 km de Bamako. Dans la même publication, il y est affirmé, je cite, « Toutes les voies qui mènent vers les pays voisins sont contrôlées par le JNIM et FLA ». Fin de citation. Ces propos sont faux. D'abord, l'internaute ne cite aucune source dans ses écrits. Et à l'absence de sources, il appuie plus tard ses propos par Grok, qui est un outil d'intelligence artificielle. Ensuite, l'image utilisée a été mise en avant plusieurs fois par certains pays occidentaux pour exposer des mesures de sécurité à leurs ressortissants. Il ne ressort nulle part dans ces alertes que 80% du territoire malien échappe au contrôle des autorités. Aussi, nous avons contacté des habitants dans certaines localités qui se situent à une centaine de kilomètres de la capitale. À Banamba, 145 km, Selengué, 143, Fana, 147 et à Kolokani, 127 km, les populations sont unanimes. Les forces armées de sécurité sont présentes dans leurs localités et sécurisent les zones. Dans les grandes villes du pays, au nord, au centre et au sud, la présence des FAMA est effective selon nos correspondants. Cependant, il faut préciser que cette présence des forces de sécurité n'empêche pas non plus les attaques à travers le pays.
Merci Dramane Maïga. Nous avons tous sûrement croisé ces enfants au carrefour ou le long des grandes artères, tendant des bouts de papier aux usagers comme argent. Une chronique de Juliette Koulibaly avec la voix de Lala Aïcha Walet Infa.
Au Mali, selon les croyances, lorsqu'un enfant t'étend un bout de papier, cela signifie que tu gagneras de l'argent. Moulay, âgé de 7 ans, fait la mendicité avec sa maman au niveau du monument de l'indépendance. Quand les feux passent au rouge, il se précipite pour distribuer ces morceaux de papier soigneusement découpés par sa mère. Il s'adresse ainsi aux usagers de la route. Oh, Ibe Warsor, ce qui signifie « tiens, tu auras de l'argent ». Un jour, alors qu'il tient un papier à un passant, ce dernier le gronde et dit « Si c'était aussi facile de gagner de l'argent, tu ne viendrais pas mendier ici avec ta mère. Allez, dégage, n'importe quoi. » À sa mère, il dit « Hé, madame, arrête de livrer les enfants à de telles pratiques pour son âge. C'est pas mieux de l'envoyer à l'école. » Sa mère reste indifférente à la mise en garde du messie. Et voilà, le lendemain, le petit Moulay a failli se faire renverser par une voiture dont les freins avaient lâché. Chers parents, au lieu de développer des stratégies pour mendier, pourquoi ne pas trouver d'autres idées pour mener des activités génératrices de revenus? Les enfants ont des droits, assurons-nous de garantir leur sécurité et une bonne éducation.
Tout à fait. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Vous pouvez nous faire parvenir aussi vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Sidio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Juste après le magazine qui va suivre, vous aurez votre émission Le Grand Dialogue réalisée à Kenyeba. Le thème est « Une cité aurifère à exploitation risquée », un débat animé par Mariam Maïga. Et maintenant, place au magazine. La Guinée va interdire la transhumance des animaux en provenance du Mali sur son territoire à partir du 2 mai. Un délai supplémentaire a été accordé suite à un compromis entre les autorités maliennes et guinéennes. Mais malgré cette mesure, les éleveurs maliens restent préoccupés et appellent à des solutions durables pour limiter les impacts. La Direction nationale des productions et des industries animales précise qu'une rencontre clé se tiendra à Bamako début mai pour poser les bases d'une coopération renforcée entre les deux pays. Nous revenons sur cette situation dans notre magazine Gouvernance et Citoyenneté, une réalisation de Mahamane Babakunta.
Amadi Sow, transhumant malien, est installé à Kouré-Malé à la frontière entre le Mali et la Guinée. Ce dernier se montre particulièrement préoccupé par la récente décision des autorités guinéennes. Il craint que cette mesure n'affecte sérieusement l'équilibre social des communautés rurales.
C'est vraiment inquiétant. Mes bêtes sont dans les environs de Sigiri. Pas moins de 6 000 têtes se nourrissent dans la dite zone. S'il faut que tous ces bétails retournent au Mali dans ces conditions où il n'y a même pas de point de breuvage, c'est tout un problème. En plus, certaines localités sont hostiles au passage des animaux.
Djoro Boukadialo, producteur et membre de la Fédération nationale du groupement interprofessionnel de la filière bétail viande au Mali, tire la sonnette d'alarme. Il insiste sur la nécessité d'une réponse rapide face à cette situation qui pourrait mettre en péril l'harmonie sociale dans les zones rurales.
Tous ceux qui sont habitués à la transhumance vers la Guinée préféreront vendre leurs animaux que de les amener ailleurs. C'est donc normal qu'on s'inquiète. On n'a pas d'autre choix que de prier pour un accord entre les dirigeants des deux pays qui profite à tous.
Pour Mohamedou Doukouré, secrétaire général de l'interprofession de la filière bétail-viande, la raison de cette interdiction prise par la Guinée réside dans des tensions persistantes entre agriculteurs et éleveurs. Il faisait partie de la mission malienne à Conakry début avril, mission visant à ouvrir un dialogue avec les autorités guinéennes sur cette question complexe.
La Guinée est un pays d'agriculture, donc vous voyez les animaux et les agriculteurs, souvent il y a des conflits d'intérêt. Les Guinéens disent que les estimations qui rentrent en Guinée, ils trouvent souvent que c'est le triple souvent. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Donc il faut vraiment un problème statistique pour pouvoir maîtriser la situation.
Diakalia Ouattara, directeur national des productions et industries animales, estime qu'il est essentiel de réfléchir sérieusement à un nouveau protocole d'accord pour réguler cette question de la transhumance. Une rencontre est d'ailleurs prévue à Bamako au début du mois de mai pour poser les bases d'une coopération renforcée entre les deux pays.
Les protocoles, d'après les Guinéens, ils ont eu des difficultés dans l'application des protocoles. Pour cela, nous avons convié de venir afin que nous échangeons par rapport aux difficultés dans l'exercice même de la transhumance. Si nous tombions d'accord, on va signer les protocoles. C'est vrai que donc, il y aura toujours ce mouvement cyclique entre nous. Mais dans l'application, il y a eu des difficultés. Donc on va échanger pour aplanir ces difficultés-là afin que les éleveurs maliens n'est pas pas de problème au niveau du territoire guinéen.
Monsieur Ouattara précise également que le Mali envisage des solutions pérennes telles que l'aménagement des zones pastorales dédiées pour éviter de nouvelles tensions. Il appelle les éleveurs maliens à respecter les décisions prises par la Guinée en agissant avec responsabilité pour préserver la paix et promouvoir une transhumance plus coopérative entre les deux nations.
On ne peut pas demander à quelqu'un de revenir chez soi tant qu'il y a des préalables qui n'ont pas été faits. Pour cela, nous avons envisagé d'aménager des systèmes de pastoral améliorés, les SHPA, afin que si ces animaux venaient à être chez nous, qu'ils soient à l'aise, qu'il n'y ait pas de problème entre agriculteurs et éleveurs. Pour cela, dans les cercles de Yanfoïla, dans les cercles de Kolontiéba et dans les cercles de Kangaba, il y a des espaces pastoraux où ces animaux peuvent être là-bas en attendant qu'ils regagnent leur village d'origine.
Enfin, il est important de souligner que cette mesure d'interdiction ne concerne pas les éleveurs maliens qui résident définitivement en Guinée.